Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, mon invité est maître Charles Villers. Charles est avocat au barreau de Montpellier depuis 2012. Il est collaborateur au sein du cabinet Bèze, Durand, Deloue et Gaillet avec une pratique généraliste. Alors, nous revenons sur ce qu'il entend par pratique généraliste puisqu'en réalité, il n'intervient pas dans tout type de dossier. Il a des matières de prédilection comme généraliste. Mais voilà, il intervient quand même de manière assez large sur des problématiques, notamment de droit civil. C'est une recommandation que je dois à Maître Camille Magna, que je remercie. Et je remercie au passage Little Lawyer 1 et Laura PNS pour leurs avis sur Apple Podcasts, iTunes. Et je vous invite, vous aussi, pour contribuer à faire connaître Fleur d'Avocat toujours plus auprès de toujours plus de monde, à saisir votre portable, à vous rendre sur votre application iTunes ou Apple Podcast, si vous en avez une, c'est-à-dire si vous êtes sur Apple, et à laisser un avis et 5 étoiles pour booster mes algorithmes. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Charles Villers.
Bonjour.
Merci d'être mon invité sur Fleur d'Avocat.
Merci de m'inviter, je suis très honoré et un peu inquiet en même temps.
Ça va bien se passer. Alors Charles, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat.
Il n'y a pas d'histoire en réalité, parce que je ne vais pas vous raconter une histoire de vocation, une histoire de « j'ai toujours rêvé de faire ça, j'ai toujours voulu faire ça ». C'est plus un concours de circonstances. Je suis arrivé en droit sans savoir trop pourquoi. À l'issue de mon bac, c'est parce que des copains s'inscrivaient en droit, donc pourquoi pas. Et puis au fil des années d'études, sans que davantage la conviction ne se manifeste, et ayant par ailleurs pas été non plus envoûté par le droit, je me suis laissé dire que c'était finalement peut-être la seule option que j'avais, le seul débouché qui me semblait à peu près acceptable pour ma vie professionnelle. Et du coup, j'ai passé le pré-CAPA sans trop, encore une fois, sans trop de conviction, en me laissant porter par les années, par les copains. Et d'ailleurs, j'étais si peu motivé que j'ai eu mon pré-CAPA qu'au bout de la troisième tentative. Donc voilà, c'est pas du tout un parcours préconçu ou... Et finalement, je regrette pas parce que je suis aujourd'hui très épanoui dans cette profession.
Ouais, et qu'est-ce qui fait que vous avez tenu déjà les 4 ou 5 années d'études de droit sans trop de passion, et puis surtout la persévérance d'un premier échec au CRFPA, deuxième échec au CRFPA, et quand même on rempile pour une troisième tentative, alors même que finalement on n'a ni grande passion pour la matière, ni grande conviction que c'est forcément le métier qu'on veut faire. Parce que ça demande quand même du travail et de la persévérance, et c'est pas si simple, quoi.
Alors, les premières années en droit, c'était pas très compliqué parce que j'ai quand même une certaine facilité, donc ça demandait pas un travail énorme. J'étais bien entouré, j'avais des copains, donc finalement, poursuivre en droit, les années d'études, ça, c'était pas trop un souci. Et après, je pense que pour la persévérance après un premier ou un deuxième échec, finalement, au contraire, c'est pas du courage que de continuer, c'est peut-être plus le manque de courage que j'aurais pu avoir de me dire stop, j'arrête et je fais tout à fait autre chose. Oui, mais je fais quoi? Et se poser, réfléchir, se réorienter vers autre chose, ça demande beaucoup plus de courage que finalement de se dire bon allez, je vais retenter une seconde puis une troisième fois, et la troisième fois finalement on se donne un peu plus les moyens parce qu'on n'a pas envie non plus de décevoir. En l'occurrence, mes parents qui s'étaient investis tout au long de mes études. Donc finalement, c'est pas la persévérance de continuer, c'est peut-être plus une absence de volonté de réfléchir à sa vie et de se dire qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je saurais faire. Donc finalement, c'est peut-être l'inverse, en fait.
Ouais. Et est-ce que au cours de vos études avant le CRFPA, en tout cas le premier CRFPA, est-ce que vous avez fait des stages?
J'ai fait un stage. J'ai jamais été très bon élève, hein. Quand je vois maintenant, aujourd'hui que je suis avocat, je vois des stagiaires qui viennent, ils font des stages en première, deuxième, troisième année, ce qui est au demeurant très très bien. Moi non, j'ai fait seulement un stage chez un copain de mon père, sans être motivé, qui m'a pas non plus particulièrement donné l'envie d'embrasser la profession, hein.
Ouais, ça a vraiment été. Et donc ensuite, donc vous dites que vous avez échoué deux fois le CRFPA avant de l'avoir. Donc ça fait 3 années de préparation?
Ouais, enfin 3 années en réalité une seule, parce que bon, faut pas que mon père écoute ça, mais les 2 premières années,
Y a
j'ai
prescription.
ouais, on peut pas, il y a prescription. Les 2 premières années, on peut pas dire que j'étais ultra ultra motivé et dans la préparation à proprement parler. J'étais
Et donc vous
plus
faisiez quoi?
ma vie d'étudiant, la première année à Aix, ensuite j'ai découvert une nouvelle ville à Montpellier, où j'ai plus passé une année à faire la fête qu'autre chose. Donc, ouais, non, plus une année de préparation, en fait.
Très bien. Donc en fait, 2 ans de préparation et surtout de fête.
Ouais.
Et puis pour la troisième tentative, là vraiment, on met les bouchées doubles et on se donne les moyens de réussir.
Ouais, c'est ça. Ouais, du coup j'ai fait l'école à Montpellier et c'est là en arrivant alors à Montpellier c'est organisé de telle manière qu'on commence en fait par un stage en entreprise qui était pas d'un très grand intérêt en ce qui me concerne c'était chez un éditeur LexisNexis que c'était intéressant mais pas pour et en prévision de la profession et ensuite on a les 6 mois d'école et puis enfin 6 mois de stage en cabinet. Et c'est vraiment là, au cours de l'école d'avocat, avec des futurs confrères, des formateurs, et ensuite les 6 mois de stage en cabinet, où c'est là où je me suis dit, ah, ça va, finalement, ça va être cool. Je sais pas, déjà, peut-être le fait d'être plongé réellement, et peut-être pour la première fois dans un univers professionnel ou pré-professionnel, en me disant, en touchant au concret, c'est bateau, on dit toujours ça sur les lettres de motivation quand on cherche des stages, je cherche à appréhender de manière concrète mon exercice. Mais en réalité, c'est ça, c'est vraiment d'être plongé dans le concret du quotidien et voir ce que c'est que des actes, des clients, des dossiers, des procès, qui fait que peut-être je suis passé outre le caractère un peu abstrait, de la matière. Et puis de rencontrer des gens qui ont fait que je me suis rendu compte que on pouvait faire de belles rencontres aussi dans ce cadre-là et que ça allait peut-être être moins rébarbatif que ce qu'on peut en penser parce qu'il y a des gens fun aussi dans la profession.
Qu'est-ce que, ouais, dans quel type de structure est-ce que vous avez fait votre stage final dans le cadre de l'école?
J'ai fait mon stage de 6 mois dans le cabinet qui ensuite m'a embauché, c'est-à-dire une petite structure de 6-7 avocats, 3-4 secrétaires, un exercice pluridisciplinaire en contentieux privatiste, ce que je fais toujours d'ailleurs actuellement, et ouais, voir de tout. Et dans une petite structure qui reste à échelle humaine. Et du coup, je m'y suis senti suffisamment bien pour que je souhaite y rester ensuite lorsque j'ai obtenu mon diplôme. Et la réciproque était vraie puisqu'ils m'ont gardé et j'y suis resté 5 ans.
Ouais, une belle rencontre. Et vous dites donc un cabinet généraliste de contentieux privatiste. Donc, quel type de clientèle? Qu'est-ce que vous faisiez comme matière? Que je comprenne un petit peu dans le concret et puis comment c'est quel a été le profil de votre activité? Et en plus vous continuez maintenant dans cette même veine. Donc voilà, pour comprendre.
Ben, je faisais de tout justement, et c'est ce que j'aime bien, et c'est ce que je fais encore. C'est un cabinet qui avait beaucoup d'assurances de protection juridique comme client. Et dans ce cadre-là, évidemment, bah, les contentieux qui sont apportés par les clients de ces protections juridiques qui deviennent les clients du cabinet, c'est toujours très vaste et ça tourne autour de droit de la famille, du droit immobilier, du droit locatif, du droit des contrats, du droit de la consommation. Ça reste toujours, enfin, en ce qui me concerne, dans le droit privé, et c'est des problématiques qui sont hyper larges, hyper variées. Et c'est un côté positif comme un côté négatif, c'est que en réalité, les protections juridiques, ça paye pas énormément. Les cabinets d'avocats, il y a des barèmes préétablis qui font que bah, on passe pas 3 jours sur un dossier. Et quand on débute, en tout cas en ce qui me concerne, le fait de brasser beaucoup de dossiers, de voir aussi, parce que sans avoir une pression, on a quand même un objectif de facturation, et le fait de devoir sortir beaucoup de dossiers, voir énormément de choses, ça m'a, je pense, en très peu de temps, ça a en très peu de temps diversifié mon activité, et ça m'a conduit à voir énormément de choses et à m'orienter aussi, parce que c'est parce que je suis parti de ça que maintenant je fais ça, à m'orienter vers une carrière de, même si c'est pas un gros mot, hein, personne n'aime trop ce mot, mais une carrière de généraliste.
Non mais c'est, enfin, moi je suis contente de cette interview et j'ai rarement interviewé sur le podcast des vrais généralistes. J'ai interviewé un avocat à Poitiers qui est pénaliste principalement, mais qui diversifie un petit peu. Enfin, voilà, il prend d'autres dossiers même si il a quand même une casquette très claire de pénaliste. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a surtout des spécialistes, des personnes qui interviennent. Dans des domaines spécifiques, voire dans des niches.
Mais alors
Et
c'est surtout pour ça que j'étais un peu inquiet de ce podcast, parce que j'ai l'impression d'avoir un exercice dramatiquement banal et qui jure un petit peu avec tous les podcasts que vous avez réalisés, avec des
Ah
trucs
mais
qui
non,
sont
justement, ça ne jure pas. ça ne jure pas. Moi, je vous dis, je suis vraiment contente parce que dans ce podcast, je cherche à représenter quand même la diversité des modes d'exercice de la profession et ensuite à chacun de, eh bien de se projeter dans une manière d'exercer ou dans une autre en fonction de comment est-ce qu'il aime travailler et de ce qu'il recherche à faire. Dans sa carrière et dans sa carrière professionnelle. Et donc, je suis vraiment contente de pouvoir vous interviewer, vous qui avez cet exercice de généraliste, parce que du coup, enfin, on va en discuter, mais j'allais vous dire, donc une clientèle dans ce cabinet donc de clients de protection juridique. Donc, j'imagine que la protection juridique, c'est beaucoup de tracas du quotidien, non?
C'est des tracas du quotidien, oui et non, parce qu'il y a des clients qui, pour un oui ou pour un non, vont se dire, j'ai une protection juridique, très bien, je ne paierai pas mon avocat ou pas très cher, et donc parce que le voisin fait trop de bruit, un petit peu trop de bruit, eh ben on va chercher à aller mobiliser la protection juridique et donc l'avocat. Mais il y a aussi des dossiers qui sont pas des petits tracas du quotidien. La piscine qui fuit, le dégât des eaux, des choses moins drôles aussi, parce que des accidents de la circulation, j'ai fait pas mal de bad inter, enfin de réparation de dommages corporels liés à des accidents de la circulation. Là, c'est pas forcément des petits tracas du quotidien. En fait, c'est vraiment représentatif de l'ensemble de l'activité judiciaire au sens contentieux et au sens des procès, parce que j'ai quasiment jamais fait de conseil, c'est-à-dire en amont des dossiers au tribunal. Et donc, c'est hyper représentatif de toute l'activité, que ce soit des petits ou des gros tracas.
Donc ça brasse large dans le sens où c'est tant de la réparation du dommage corporel, finalement, des choses qui sont plus liées au droit de la construction, etc., etc. Et ça, cette diversité, ça vous a plu et ça vous plaît encore? Vous pensez que c'est du coup le fait d'être amené d'un point de vue intellectuel, en fait, à beaucoup varier vos domaines d'intervention et donc à toujours apprendre sur des nouveaux domaines ou dans des nouvelles réglementations et à être obligé Enfin, j'imagine, je sais beaucoup de projections, hein, parce que moi-même, j'étais très spécialisée, mais voilà, de beaucoup, la formation, du coup, continue de soi-même et permanente, quoi, parce que du coup, si c'est toujours des dossiers différents, ça veut dire que faut toujours être capable d'aller chercher des choses dans chaque réglementation en fonction des domaines et des problématiques. Est-ce que c'est ça, et ou est-ce que c'est justement le profil de clientèle, les moments de vie dans lesquels ils se trouvent quand ils viennent vous voir? Est-ce que c'est juste que ça s'est fait comme ça et que c'est bien comme ça? Qu'est-ce que vous diriez qui vous séduit en fait dans cette forme d'exercice?
Alors il y a un peu de tout parmi tout ce que vous avez dit. C'était comme ça et c'est bien comme ça, c'est sûr. Mais si c'est bien comme ça, c'est aussi parce que j'y ai trouvé à l'époque un intérêt qui est d'une part de diversifier la pratique et pas de m'enfermer dans un contentieux de masse qui soit pas forcément intéressant. Je sais que par exemple, je fais pas de recouvrement de charges à la chaîne, ça je trouve pas ça très intéressant. Donc une diversification de l'activité, je trouve que c'est plus enrichissant, effectivement, intellectuellement. Ensuite, ça m'a permis, et ça me permet toujours, je pense, d'avoir une vision un peu transversale et d'aller piquer dans telle ou telle matière un mécanisme qui concerne une autre matière. J'ai beaucoup fait de droit des contrats et les mécanismes contractuels me servent dans tous les pans de mon activité. Ensuite, ça m'a aussi permis, à l'époque, parce que je faisais donc beaucoup de judiciaire au sens de civil, mais il y avait aussi du droit de la famille et du droit du travail et un tout petit peu de droit pénal. Et pour le coup, maintenant j'ai changé de cabinet, mais je suis encore généraliste et je sais maintenant qu'il y a certaines matières que je sais pratiquer, mais que je ne veux plus pratiquer parce que ben, j'ai vu que ça ne me plaisait pas, et même si je continue à avoir une activité généraliste, j'essaie de la réduire à ce qui aujourd'hui m'intéresse, et notamment droit de la famille, droit du travail et droit pénal. Je fais plus parce que soit je suis pas bon, soit ça m'intéresse pas, mais ça m'intéresse plus exactement.
Ouais, c'est hyper intéressant parce que moi, quand on me parle de généraliste, je projette énormément justement de droit du travail, de droit de la famille et de droit pénal.
Ouais, alors j'en ai fait et j'en fais parfois un petit peu, mais bon, d'une part, quand on se prétend ou quand on se qualifie de généraliste, faut rester humble. Je peux pas tout faire et tout bien faire. Et quand vous parliez tout à l'heure de difficulté à aller chercher la formation au quotidien parce que tout se complexifie, je peux effectivement pas tout savoir bien faire. Et d'ailleurs, je donne des cours aux jeunes avocats, ou plutôt aux élèves avocats et aux jeunes avocats, sur leur serment et notamment leur devoir de compétence. Et je leur ai dit la semaine dernière, et je vais leur redire demain, parce que c'est pour ça que j'en parle, c'est en ce moment que je donne ces formations-là. Attention, ne prenez pas n'importe quel dossier, vous ne pouvez pas tout savoir bien faire, et il faut garder une certaine conscience de ses compétences et de ses limites. Et c'est pour ça aussi que bah, le droit du travail, c'est quand même hyper complexe. Le droit de la famille, quand on fait, c'est souvent galvaudé, le droit de la famille, c'est parfois considéré à tort comme une matière où le droit n'est pas présent, c'est purement factuel, ce qui est, à mon avis, pas tout à fait vrai. Mais pour autant, c'est quelque chose qui m'intéresse pas vraiment, donc que j'ai exclu de mon activité. Mais n'empêche que il y a suffisamment d'autres matières pour que je puisse considérer que j'ai un exercice généraliste.
Donc vous avez dit le droit de la famille exit parce que ça ne vous intéresse pas tellement, le droit du travail exit parce que ça ne vous intéresse pas tellement et c'est très technique, donc trop complexe de faire ça en même temps que plein d'autres choses qui en plus vous intéressent plus. Et le droit pénal, qu'est-ce qui vous a fait progressivement réduire le droit pénal?
Alors le droit pénal, pour le coup, c'est vraiment la conscience de mes limites et de ce que on peut pas tout faire, surtout quand il y a la liberté des gens qui est en jeu. non pas que la liberté des gens soit plus importante qu'un dossier de droit de la famille et de garde d'enfants, et non pas non plus que les dossiers en droit pénal consistent systématiquement à empêcher les gens d'aller en prison, mais j'ai eu quelques dossiers où je me suis pas senti à la hauteur, et je pars du principe que quand il est fondamental qu'un client ait confiance en son avocat et dans le fait que son avocat soit suffisamment compétent pour avoir recours à lui. Et ne m'étant pas senti suffisamment à la hauteur une fois, je me rappelle très bien de ce dossier, j'ai estimé qu'il n'était pas, il n'était pas, comment dire, il fallait pas en réalité que je poursuive dans cette voie-là pour le bien de mes clients et peut-être même pour le bien de l'image de la profession. J'exagère en disant ça, mais il faut surtout pas.
Non, non, vous avez raison et je trouve que ça c'est intéressant d'en parler parce que effectivement pour le bien de ses clients, bon, bien évidemment déjà c'est un motif suffisant, mais c'est aussi enfin je pense que il y a beaucoup d'avocats, je pense que en tout cas j'ai la sensation moi personnellement que la profession d'avocat souffre aussi d'une mauvaise réputation qui potentiellement est entretenue par par des situations où les clients sont pris en charge par des confrères qui, en fait, ou sont pas compétents, ou voilà, pour une raison ou pour une autre, sont pas en mesure de traiter un dossier et que ça fait des clients déçus et donc ça fait pas des clients qui reviennent vers la profession, même vers un autre professionnel. Parce que du coup, après, c'est quand même un immense amalgame. Donc non, moi, je trouve ça intéressant que vous souligniez que c'est pas juste une problématique individuelle, c'est aussi une problématique collective et de réputation collective du corps professionnel dans son ensemble. Et vous avez parlé donc d'un dossier en particulier qui a été un déclic pour arrêter ou réduire le droit pénal. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce dossier?
Ouais, mais alors du coup, c'est comment mettre en avant mon incompétence? Merci.
Mais c'est on apprend beaucoup de situations d'échec.
C'était la seule fois d'ailleurs, parce que je suis pas retourné, que j'allais visiter un client en détention. Il avait été condamné en première instance. C'était pas mon cabinet qui était l'avocat en première instance, c'était un avocat de permanence pour avoir. C'était pas dramatique hein, les faits. Il avait en gros crevé les quatre pneus et cassé les vitres d'un véhicule qui était stationné dans la cité dans laquelle il vivait. Et finalement, pour si peu, il avait été condamné en première instance par le tribunal correctionnel à 1 an de prison ferme. Alors qu'il n'avait pas un casier, je crois pas qu'il avait de casier. Et en réalité, on avait un peu le sentiment que, bah, déjà, il avait été condamné à 23 heures avec un avocat de permanence qui avait probablement vu le dossier une demi-heure, donc dans des conditions, ça c'est un autre et vaste débat de moyens de la justice, mais dans des conditions quand même un peu difficiles. Et j'avais un peu le sentiment que c'était parce que dans cette cité difficile vivait un couple, en l'occurrence les victimes les propriétaires de la voiture, qui était un couple de Français, et on avait un peu le sentiment que mon client qui était maghrébin, avait un peu pris pour tout le monde. Bon, ça c'est le sentiment que j'avais. Et toujours est-il que j'avais au dossier la preuve de ce que ce n'était pas lui qui avait crevé les pneus de la voiture, parce que son copain lui avait fait une attestation en disant c'est moi qui ai fait ça. Bref. Et moi je prends le
Sympa
dossier
le copain.
en appel et je sais pas si j'ai pas été bon, si j'ai pas été suffisamment bon, si j'ai pas suffisamment mis en avant tel ou tel élément. Toujours est-il que la peine a été purement et simplement confirmée. C'est-à-dire que la peine d'un an d'emprisonnement pour si peu a été confirmée. Et le client m'en a jamais voulu. Il a vu que je connaissais le dossier, que j'avais pas mal plaidé. Mais je me suis pas senti à la hauteur parce que je trouvais ça profondément injuste que d'une part pour si peu, d'autre part parce que c'était pas lui, et troisièmement parce qu'il y avait une espèce de couleur dans ce dossier dont je n'ai pas su si j'aurais dû la mettre en avant davantage ou au contraire le taire. Je me suis dit bon, le droit pénal, c'est manifestement pas fait pour moi. Peut-être que j'aurais dû persévérer en me disant un dossier ne fait pas une carrière, mais je me suis dit bon, prenons un peu de distance avec ça et laissons faire ça à ceux qui savent le faire.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est pas non plus un. Enfin, je veux dire, de ce que j'entends, oui, je comprends hein, tous les doutes sur peut-être que j'aurais dû plus mettre en avant ceci ou cela. Et le dossier, ça paraissait tellement évident que cette peine était trop lourde. Et d'ailleurs, n'aurait même pas dû exister puisqu'il y avait une preuve dans le sens contraire, etc. Mais c'est tirer un trait vite sur toute une pratique. Est-ce que finalement, en plus de peut-être des doutes sur votre compétence en droit pénal, est-ce qu'il y avait aussi quelque part la dureté de cette matière, quoi?
Ouais, la dureté de la matière, bah c'est alors là, on est proche de la psychanalyse. Mais est-ce que le fait d'aller voir pour la première fois et ce que je n'ai jamais refait depuis, ce client en détention, au parloir, en passant les portiques, etc. Est-ce que ça m'a dérangé peut-être? Est-ce que j'étais déjà modérément attiré par la matière? Probablement. Et puis moi je vois, enfin à Montpellier en tout cas. Le barreau où j'exerce, les pénalistes, il y a deux, trois cabinets qui ont les beaux dossiers, et puis le reste, se contente, entre guillemets, des dossiers de comparution immédiate, des dossiers à l'aide juridictionnelle, dont malheureusement, la rétribution au titre de l'aide juridictionnelle est bien insuffisante par rapport, à l'investissement que ça demande ou à l'investissement que ça devrait demander. Un peu de tout ça mêlé au fait que bah, finalement je me sens peut-être plus à l'aise dans mon confort de droit de la construction pour que peut-être je tire un trait, comme vous dites, sur un pan de cet
Ouais, mais
exercice.
y a pas
Après,
de mal.
là.
Hein. Moi, je cherche
Pardon.
juste à expliciter les différents éléments qui ont conduit potentiellement à une restructuration d'une activité. Mais vraiment, c'est sans aucun jugement de valeur
Non, bien
sur le
sûr.
fait d'avoir dit, bon, en fait, non.
Après,
Moi,
je
personnellement.
fréquente encore parfois les tribunaux correctionnels, moins dans la défense pénale, plus plutôt côté partie civile, mais bon, bah, ça m'arrive encore. Je n'ai pas une phobie du droit pénal. Hein.
Ouais. Non, mais je sais que personnellement, quand j'ai entamé ma reconversion à un moment, je me suis dit, bon, mais peut-être qu'il faut pas que je quitte la robe, peut-être qu'il faut que je change de spécialité. Et j'ai réfléchi par rapport à plus à des causes qui me tenaient à cœur et à des profils de. Et puis en réfléchissant 2 secondes au droit pénal et à certaines situations qui relèvent du droit pénal, je me suis dit oui non mais c'est magnifique mais jamais j'aurai les épaules de faire ceci ou de faire cela. Enfin je veux dire après il y a aussi c'est je le enfin c'est pas grave quoi et j'ai beaucoup énormément de respect pour les avocats qui font du droit pénal et qui tous les actes et tous les types d'accompagnement qui relèvent du droit pénal que je trouve très honorable, mais moi, jamais j'aurais eu les épaules de faire ça. Et j'ai une autre curiosité qui est, vous avez dit tout à l'heure que vous avez pas mal manipulé la technique contractuelle et que c'est quelque chose qui vous sert beaucoup dans votre pratique. Voilà, ça a attiré ma curiosité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus?
C'est pas très sexy non plus, mais je veux dire, j'apprécie beaucoup me plonger dans un contrat et pouvoir déceler les clauses qui peuvent être jugées abusives, celles qui sont mal rédigées et que je vais pouvoir mettre en avant dans un crédit bail pour sortir le crédit preneur de ce mauvais pas. Et puis tout ce qui est procédure civile. Mes premiers réflexes quand je prends un dossier, c'est de vérifier. Enfin, tous les civilistes le font, hein. Mais les prescriptions, les fins de non-recevoir, les défauts de qualité à agir, tout ce que vous voulez, toutes les nullités. Et c'est un réflexe que tout le monde doit avoir. Mais je sais pas, moi, c'est quelque chose qui me pas qui me fascine, faut pas exagérer, mais quelque chose qui, dans le cadre de mon exercice, me plaît plus qu'autre chose. Je reviens un peu en arrière. Je vous parlais du droit du travail, du droit de la famille. Si j'en fais aussi peu, c'est aussi parce que j'ai un rapport au client qui est assez fuyant. C'est-à-dire que moins je les vois, mieux je me porte. Et c'est pas pour autant que j'aime pas leur dossier ou j'aime pas défendre leur affaire et où je m'intéresse pas à tout ça. Mais je préférerais toujours lire un contrat et me contenter de défendre leur cause par écrit en quelque sorte que quand je sais pas comment dire que qu'en les écoutant à longueur de journée et quand je parle de technique contractuelle et de procédure civile, c'est ce côté-là, c'est ce côté écrit technique de la matière qui m'intéresse le plus.
Ah mais enfin, je trouve ça très chouette que vous en parliez. J'ai eu d'autres fans de procédures civiles et de ce type d'approche dans le podcast. Je pense à Anthony Mazenc, par exemple. Et on a eu d'autres. Je mettrai les liens en note de l'épisode et c'est vrai que à chaque fois il y a ce réflexe de dire bah voilà peut-être que c'est un peu geek, peut-être que c'est un peu nerd et que c'est pas du tout sexy et ça sort complètement de l'avocat, des prétoires qui fait des effets de manche avec des belles plaidoiries et voilà, mais en fait moi ce que j'aime c'est la procédure civile, c'est les détails techniques,
Ouais.
c'est et je pense que c'est bien d'en parler, quoi, de ça. Je veux dire, c'est aussi, c'est, on n'est pas moins avocat comme ça qu'autrement, quoi.
Mais l'autre jour, j'étais tout content de me dire que j'avais gagné le dossier parce que en face, elle avait pas fait gaffe à la compétence spéciale d'une cour d'appel dans une matière particulière. Et je l'avais annoncé à mon boss. J'ai dit, là, elle va se planter, tu vas voir. Et ben, ça a pas raté, elle s'est plantée. Et du coup, j'étais content en réalité d'être le seul à avoir vu la spécificité procédurale du truc. Mais c'est effectivement
J'imagine
un peu
très bien
geek, ouais.
la petite satisfaction
Ouais.
du truc qui arrive, qui survient et de cette victoire, je vois très bien. Et donc, alors, merci pour ce retour sur le périmètre d'intervention et pourquoi telle ou telle matière. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça chouette. Est-ce que, donc, vous dites que vous avez commencé, donc, stage final dans cette structure qui fait beaucoup de protection juridique, qui se passe bien de telle façon que vous êtes recruté en fin de stage et que vous y passez 5 années de collaboration. Comment s'est passée cette collaboration?
Super bien. J'étais le collaborateur de Pierre Châtel, qui est un ancien bâtonnier, qui s'est beaucoup investi pour la profession et qui continuait à s'investir pour la profession, et d'ailleurs peut-être plus pour la profession que... Bon, il va pas m'en vouloir si je dis ça. Peut-être plus pour la profession que pour son cabinet. Si bien qu'en réalité, j'étais très très autonome. Très autonome dans les dossiers que je gérais. Et même s'il était évidemment toujours là pour me donner les conseils qui vont bien, mais j'avais mon indépendance finalement dans le traitement intellectuel des dossiers, ce qui fait d'ailleurs, je pense, que j'ai aussi vite progressé. Et au-delà de ça, tous les autres associés ou collaborateurs étaient super. Donc j'ai vraiment passé 5 ans super, et ça s'est super bien passé parce que il y avait comment dire un alignement entre les dossiers, le travail confié, l'ambiance, ce qui fait qu'une collaboration est épanouie.
Ok. Et au bout de ces 5 années, alors est-ce que vous avez développé votre clientèle personnelle pendant cette collaboration?
À ce moment-là, pas énormément, parce que j'avais une charge de travail qui était déjà conséquente. Et puis parce que c'est pas quelque chose à laquelle j'aspirais particulièrement. Je pars du principe qu'il fallait d'abord que je me forme avant tout. Pour moi, la collaboration libérale, d'une part, elle est indispensable pour débuter la profession, d'autre part, elle doit vraiment être appréhendée sous l'angle de la formation. Alors même si c'est un peu contradictoire, parce que je viens de vous dire que j'étais un peu livré à moi-même, vu que mon boss était à la conférence des bâtonniers. Mais c'est pas aussi simple que ça. Je pense que
Non,
la
mais de toute
collaboration, elle doit
façon,
vraiment
la
s'apprécier.
formation, c'est 70-20-10, hein, donc les 70 de je suis sur le terrain et je fais, c'est quand même la meilleure manière de
De se former,
la
ouais.
meilleure manière de te former, voilà, exactement.
Donc, je sais ce que je disais, mais...
Que vous disiez, vous étiez en train de parler du paradoxe entre,
Oui.
enfin, vous disiez de pour vous la collaboration libérale, le premier objectif, c'est quand même de former les confrères.
Voilà,
Vous
et du coup,
évoquiez le paradoxe avec.
j'estimais surtout que j'étais pas prêt pour développer ma clientèle personnelle sans avoir été suffisamment formé. Et on ne devient, à mon avis, un avocat complet et compétent qu'au bout de plusieurs années. Et il faut pas non plus griller les étapes et aller développer une clientèle personnelle trop vite, trop tôt, sans qu'on ait derrière le bagage pour pouvoir la gérer.
Et là, on revient sur un deuxième a priori, en tout cas un deuxième a priori vu de Paris. Hein, tout ça est très biaisé, mais qui est que en région, globalement, c'est même financièrement compliqué de vivre sans développer sa clientèle personnelle parce que les rétrocessions d'honoraires sont très, enfin sont vraiment pensées. En partant du principe que vous allez développer tout de suite, quoi. Enfin, du coup, je suis ravie d'avoir votre perspective là-dessus, qui du coup dépasse sûrement votre cas très personnel, mais voilà, par rapport à cet a priori, même d'un point de vue strictement financier de l'exercice et du jeune exercice de la profession d'avocat en région.
C'est compliqué comme question. Peut-on décemment vivre avec un minimum de collaboration qui est en première année à Montpellier fixé à l'époque où j'exerçais à 2000 euros? Oui, on peut vivre décemment. Est-ce en adéquation avec 7 ans de formation, enfin 7 ans d'études un volume horaire de 50 ou 60 heures? Probablement pas. Maintenant, il y a des minimums de rétrocession qui sont fixés à 2000 euros la première année, sachant que sur ces 2000 euros, évidemment, c'est avant charge. Donc, à la fin du mois, on a 1300 euros. On n'est pas forcément au minimum ordinal. Heureusement, on a la possibilité de négocier sa rétrocession. Et puis, si on fait bien son boulot la deuxième année, le cabinet qui veut nous garder va nous payer un peu plus. Moi, je fonctionnais à l'intéressement, je fonctionne toujours à l'intéressement d'ailleurs pour partie, ce qui fait que bah, plus on est rentable pour son cabinet, plus à la fin du mois, on a une rétrocession qui est importante. Ensuite, évidemment...
L'intéressement, c'était sur le chiffre d'affaires du cabinet, c'était sur vos dossiers, c'était...
Alors à l'époque, c'était sur le chiffre d'affaires, la facturation effectivement générée, que je générais. C'est-à-dire chaque fois que je rentre 1000 euros pour le cabinet, j'en prenais à la fin du mois une partie. Et aujourd'hui, c'est plus sur la facturation, c'est sur l'encaissement. Parce qu'on sait que avec certains types de clientèle, c'est parce qu'on facture que derrière les honoraires vont être réglés. Donc ça, c'est facturation ou encaissement. Mais après, évidemment que c'est toujours mieux de compléter sa rémunération avec des dossiers personnels. À Montpellier, la première année, on est désigné par le bâtonnier pour intervenir à l'aide juridictionnelle. Donc ça vaut ce que ça vaut, l'aide juridictionnelle. Mais quand on est en première année, on est quand même bien content d'avoir 432 euros pour un tribunal d'instance à la fin du mois en plus. Et faut quand même garder à l'esprit qu'un jeune installé qui va faire beaucoup de permanence pénale, etc., et travailler beaucoup à l'aide juridictionnelle, il va avoir aussi énormément de mal à la fin du mois, peut-être même plus qu'un collaborateur.
Oui, c'était vraiment de la curiosité, hein, là, c'est sans. Et pour en revenir à vous et votre parcours, donc vous dites que vous n'avez pas développé tout de suite. Quand est-ce que vous êtes mis dans cette dynamique?
En fait, j'ai été démarché bêtement par un site commercial qui vendait des sites internet et surtout du référencement payant. Et je me suis dit, bien, pourquoi pas? Et il s'avère que ça n'a pas si mal marché que ça, parce que le téléphone sonnait. Et voilà, ça m'a permis parce qu'en réalité, c'est bien beau de dire, je vais développer ma clientèle, mais il n'y a pas de recette magique pour développer sa clientèle personnelle. Dans la mesure où moi, j'étais pas partant pour m'inscrire aux permanences pénales, que j'étais pas doté d'un réseau énorme. Comment faire pour développer sa clientèle? C'est pas forcément un choix. Et puis les clients ne viennent pas forcément parce que ils ont vu votre nom dans l'annuaire. Donc là, en l'occurrence, je suis passé par un système de référencement payant. Ça a plutôt bien marché. Et puis ben, je me suis les ça m'a mis le pied à l'étrier, quoi.
Oui, il n'y a pas de recette magique dans le sens où de toute façon ça demande du travail, mais il y a quand même des petites méthodes marketing qu'un avocat peut sur lesquelles un avocat peut travailler. Moi, je travaille là-dessus avec mes clients dans le cadre d'une formation, mais effectivement le référencement fait partie des stratégies possibles pour développer. Et donc ça a été effectivement un démarchage pour un site internet, du SEO. Vous vous êtes dit pourquoi pas? Là, vous étiez à quel niveau, enfin, ça faisait combien de temps que vous exerciez?
4 ans, 4 ans à peu
4
près.
ans, ok. Et vous dites donc SEO, référencement, ça veut dire que un potentiel client qui tape sur Google avocat droit de je sais pas quoi va tomber sur vous. Montpellier droit de je sais pas quoi va tomber sur vous et donc vous appelez donc beaucoup de clients au téléphone et ensuite potentiellement il faut transformer, c'est-à-dire en faire des dossiers qui rentrent. Comment quel est votre ratio en fait? Est-ce que vous avez une idée du ratio de d'appels versus d'appels qui deviennent des clients et voilà, plus en termes
Non, ratio assez bon. C'est-à-dire que les clients, quand ils téléphonent, faut pas leur faire leur consultation au téléphone, sinon bah, ils ont plus besoin de vous. Mais il faut pas non plus les envoyer bouler en leur disant non, non, écoutez, vous prenez rendez-vous, je vous donne aucun rendez-vous par téléphone. Parce que sinon, bah, ils poursuivent pas. Donc faut garder un juste équilibre en leur donnant une ou deux informations et en leur disant, par contre, il faut absolument qu'on se voit en rendez-vous avec tous vos documents, monsieur, vous comprenez bien que là, je peux pas vous en dire plus. Et puis en général, ils prennent rendez-vous. Et puis on sent si on lui dit que le rendez-vous est payant ou si on sent que ça va coincer, auquel cas on lui fera peut-être le premier rendez-vous gratuit si on sent qu'il y a un dossier derrière. Et puis ensuite, rendez-vous, bah, ça se transforme en dossier. Là, il y a pareil, il n'y a pas de recette. Si le feeling passe bien, si le client est en confiance et sent qu'on maîtrise la matière, et si il y a effectivement un dossier au bout. Mais là, c'est pareil, il faut savoir aussi se vendre un petit peu et avoir en tout cas, surtout nouer une bonne relation avec le client.
Donc vous dites les clients appellent des informations juridiques mais pas circonstanciées, c'est-à-dire pas nécessairement qui va jusqu'à la consultation parce que déjà il faut voir la documentation et puis parce que en plus l'idée c'est quand même d'arriver au stade où on les rencontre en rendez-vous. Sachant que vous avez dit vous faites pas de conseils, donc la plupart, enfin je veux dire votre activité, l'activité pour laquelle vous êtes rémunéré, c'est vraiment l'aspect derrière litige, défense, accompagnement, j'imagine aussi de l'amiable, etc. Et ensuite en rendez-vous, en fonction de comment ça se présente le premier rendez-vous qui est un peu duquel il ressort, j'imagine, l'estimation de est-ce que enfin quelles sont les perspectives, qu'est-ce qui serait possible de faire, etc., etc. Payant ou pas en fonction du type de dossier et en fonction du type de client. Et là, qu'est-ce qui vous fait orienter vers un côté ou vers un autre?
C'est-à-dire
Si vous faites
la
payer ou pas la
suite
première consulte.
judiciaire, c'est si le procès en vaut la chandelle.
Oui, non,
le...
je pensais plus à l'aspect commercial, c'est-à-dire est-ce que je fais payer ou pas le premier rendez-vous? Et ça, d'ailleurs,
Ouais.
est-ce que c'est quelque chose qui ressort de l'échange téléphonique ou est-ce que c'est quelque chose qui dont vous allez parler déjà quand quand le client est là?
En principe, je leur annonce par téléphone que le premier rendez-vous est payant, parce que je pars du principe que il faut valoriser notre activité, il faut valoriser notre conseil, et il faut valoriser le rôle de l'avocat et pas le réduire à un avocat gratuit. Il y a trop de souvent dans l'esprit des gens, parce que la protection juridique, parce que l'aide juridictionnelle, avocat égale gratuit. Et ça, je me bats contre ça. Et il faut valoriser son rendez-vous parce que d'une part, on ne sait pas si le client reviendra vous voir et on ne sait pas non plus si à l'issue du rendez-vous, un procès est envisageable. Maintenant, à titre exceptionnel, je ne facture pas les rendez-vous, mais c'est vraiment exceptionnel et c'est si déjà ça, en 10 minutes, j'ai vu qu'il n'y avait rien à faire, je lui ai expliqué et je lui dis qu'il n'y a rien à faire malheureusement. Je ne vais pas en plus lui prendre 100 € pour 10 minutes. Il faut savoir avoir un peu d'empathie et vis-à-vis de la situation financière aussi du client, ne pas systématiquement facturer une consultation. Mais par principe, j'estime qu'il est fondamental, que, de la même manière qu'on va chez le médecin, il ne dit pas non, j'ai pas de prescription à vous donner parce que ça va passer tout seul. Bon, eh ben, je ne vous facture pas la consultation. Il faut valoriser notre conseil.
Oui, non, mais c'est là-dessus, en fonction des avocats, plusieurs approches. C'est-à-dire que je connais des avocats qui font en fait une première consultation gratuite assez poussée. Parce que en fait, plutôt que de batailler pour se faire payer pour cette première consultation, ils préfèrent faire ça et en fait donner un max de valeur à ce moment-là. Et puis, par définition, partir du principe que résultat, le client les choisira eux pour l'accompagnement derrière, si accompagnement il y a à avoir. Et puis, il y a aussi l'autre. Et en fait, c'est plus. C'est plus une technique de process commercial qu'autre chose. Et puis il y a l'autre versant qui est plus sur ben non la prestation, ne serait-ce que l'analyse du dossier et le fait d'émettre un avis et de voilà enfin cette prestation-là qui effectivement est une prestation juridique et de conseil et il faut la valoriser et donc par principe plutôt la faire payer. Mais là, c'est vraiment toutes les techniques. Je suis toujours curieuse de savoir comment chacun se positionne par rapport à ça, en fait. Ok. Et du coup, avec ce référencement et avec ce site internet et ses clients, vous avez commencé à développer et en fait, ça s'est bien passé. Est-ce que je comprends?
Ouais, ça s'est bien passé. Après, c'est pas non plus magique, hein. Ça permet de développer un petit peu, mais tout en ayant à l'esprit que je conservais une charge de travail qui était pas négligeable dans le cadre de ma collaboration et que je pouvais pas non plus trop en faire. Mais encore une fois, même à l'heure actuelle, je suis encore collaborateur dans un autre cabinet. J'ai des clients personnels, mais il faut arriver à mener de front tout ceci, les dossiers qu'on traite pour le cabinet et ces dossiers personnels. Donc c'est pas non plus une explosion de dossiers perso.
Et pourquoi avoir changé de cabinet au bout de 5 ans?
Parce que même si ça se passait très bien, j'avais l'impression que j'avais fait un peu le tour, et c'est pas méchant de dire ça, hein. J'ai passé 5 ans extraordinaires dans ce cabinet, mais au bout de 5 ans, ben, je vous disais tout à l'heure que protection juridique égale dossier qu'on doit traiter peut-être un peu plus rapidement qu'un autre dossier, parce que les barèmes sont un peu serrés vis-à-vis des protections juridiques et qu'on peut pas passer 4 jours sur le même dossier. Et donc peut-être que j'avais fait un peu le tour de ce genre de clientèle et que j'avais aussi envie de voir ce que c'était qu'un cabinet qui fonctionne avec un mode de facturation différent, avec des particuliers ou des entreprises en direct sans être tenu par un barème et qui puisse facturer sa prestation vis-à-vis de ce qu'elle vaut réellement en termes de temps passé. Et je voulais voir aussi un peu autre chose, un peu plus de droit commercial, un peu plus de droit des affaires, même si j'aime pas trop ce mot. Et donc j'ai rejoint un autre cabinet pour voir un peu, voir du pays.
Vous avez cherché ou ils sont venus vous chercher ?
Non, j'ai été démarché, enfin démarché, c'est un bien grand mot. Il est venu me voir parce qu'il a besoin de quelqu'un et il pensait que je pouvais faire l'affaire.
Donc le fait que vous veniez pas forcément exactement de ce mode d'exercice-là, enfin, dans le sens que la manière de travailler de ce cabinet, le type de clientèle, même le type de dossier, parce que vous dites que ça allait impliquer de faire plus de droit commercial, plus de droit des affaires, le fait qu'il y ait cette montée en compétences, cet élargissement de vos compétences, en l'occurrence, n'a pas posé de difficultés pour faire évoluer votre mode d'exercice et le type de dossier dans lequel vous intervenez, quoi.
Non, mais déjà, c'est bien de voir autre chose et c'est bien de se remettre en question. Il faut pas rester dans une routine perpétuelle et c'est en voyant d'autres dossiers que on se remet en recherche d'autres... monter en compétences, se former davantage sur d'autres matières. Et ce qui est toujours, du coup, utile au traitement des matières dont on se pense actuellement au niveau. Et se remettre en question, c'est vraiment ça l'esprit. Et ce qui m'a permis de devenir un meilleur avocat que je ne l'étais.
Mmh. Et donc là, ça fait combien de temps que vous êtes dans cette collaboration ?
3 ans. J'ai fêté mes 3 ans la semaine dernière.
Ben, joyeux anniversaire. Et ça, c'est pareil, encore un a priori, une vision parisienne qui se renverse ou en tout cas à nuancer d'une certaine manière, qui est qu'en province, on s'installe beaucoup plus vite et qu'on ne reste pas collaborateur aussi longtemps, puisque finalement, ça fait 8 ans de collaboration de votre côté.
Ouais, je suis peut-être une exception, mais je suis très attaché à la collaboration et je continuerai à être collaborateur tant que j'y trouverai un intérêt et que le cabinet qui me rémunère, il conservera aussi un intérêt. Alors, de manière purement mercantile, de manière purement économique déjà, le fait de pas avoir de problèmes de sommeil à la fin du mois, parce que je sais que au-delà de mes clients perso, j'ai une rétrocession fixe qui tombe tous les mois et qui fait que je peux payer mon prêt IMO. Et je vois, j'ai été président du JIA, donc j'ai vu des confrères en difficulté, des jeunes confrères en difficulté. Au Conseil de l'Ordre, j'ai vu l'autre côté, c'est-à-dire les cabinets en difficulté parfois économique, surtout liée à notre grève et au confinement. Et je sais que un jeune installé ou un cabinet beaucoup plus installé peuvent avoir à la fin du mois quelques frissons quand doivent peut-être payer la TVA ou l'URSSAF. Et je suis bien dans mon petit confort égoïste de collaborateur. Ça, c'est le côté.
C'est super d'en parler.
Ça, c'est le côté économique. Et ensuite, non, je continue encore à apprendre. Et là, je suis dans un cabinet où il y a une associée en construction, une en famille-travail, un en copro, et chacun est hyper pointu dans sa matière. Et quand j'ai besoin de quelque chose, ils sont là pour me l'apprendre, me guider et continuer encore à me former. Je vais pas continuer à me former peut-être jusqu'à 50 ans d'exercice, mais j'estime que j'ai encore aujourd'hui des choses à apprendre.
Ouais. Et vous avez parlé de l'UJIA. Ah non, avant de parler de l'UJIA, j'allais dire quid du passage d'une facturation d'une facturation donc fixe, forfaitaire, imposée par la
ouais,
protection juridique, à, voilà, exactement, à des honoraires négociés et au temps passé. Quel a été votre apprentissage par rapport à ça ?
Ben, les premiers mois, à nouveau, un peu de pression, de remise en question, de se dire, mais attends, là où je facturais 1000 euros, maintenant, pour le même type de dossier, je facture 3000. Donc, le client va attendre de moi quelque chose de plus important. Donc, est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce qu'intellectuellement, ça va valoir le prix que le client va payer ? Donc, au départ, c'était quand même beaucoup d'inquiétude aussi. Et puis finalement, on se dit que on a plus le temps de s'intéresser au dossier. Donc, on va peut-être faire un travail qui est de meilleure qualité, tout simplement, avec plus de recherche, plus de discussions avec le client ou avec mon boss, en échangeant davantage sur le dossier, parce que on a plus le temps de se positionner dessus. Et je dis certainement pas que je faisais un mauvais travail avant, mais je pense que j'en fais un meilleur maintenant.
Ouais. Et qu'est-ce qui vous a, enfin, du coup, pour être à nouveau à l'aise avec ses honoraires et avec la tarification de ses activités. C'est exclusivement du temps passé ou est-ce que vous avez aussi un peu un fonctionnement par forfait ?
Non,
parce que
c'est du forfait. C'est du forfait qui est évalué au temps passé. C'est du temps passé déguisé, mais ça reste des forfaits qui sont préétablis lors de la conclusion de la convention d'honoraires.
Et c'est des forfaits qui sont à chaque dossier, vous vous dites ok, donc ça on évalue à temps, ou est-ce que c'est avec un retour sur la moyenne du temps passé sur tel type ou tel type de dossier vous
non, ça c'est le grand chef qui décide, c'est pas moi qui décide des honoraires. C'est avec son expérience, ça fait 40 ans qu'il est avocat, ou 35 ans, je pense qu'il sait à peu près ce que ça va demander comme investissement. Après, il n'y a pas de recette magique pour la fixation des honoraires. Les honoraires au forfait, c'est souvent une évaluation qui est très, très approximative, ça c'est sûr.
Ouais, je discutais avec une avocate qui me disait qu'elle attendait avec impatience de terminer sa première année une première année d'exercice, avec pas mal de développement de son côté pour pouvoir faire une moyenne en fait en fonction du type d'acte ou d'intervention et en fait non plus basée sur une estimation a priori de ce que ça va prendre dans le futur, mais de voir ok, dans le passé ça a pris en moyenne ça, donc on va placer le forfait là et puis parfois je perds, parfois je gagne,
ouais.
Mais globalement c'est un peu ça la
médiane. Il faut avoir un peu d'expérience, c'est sûr, ouais, pour savoir évaluer ce que ça va nous demander comme investissement.
Ouais. Et ça vous sert pour votre activité perso ?
Oui, bien sûr, parce que d'avoir
fait ce changement de paradigme dans votre exercice.
Alors, que ce soit pour le traitement du dossier ou pour les modalités de fixation des honoraires, notre exercice personnel, enfin le volet personnel de nos dossiers, se nourrit et toujours de ce qu'on a vu et appris dans le cadre de notre collaboration. Maintenant, est-ce que je passe plus de temps pour mes clients perso que ce que je le passais avant ? Je sais pas, j'ai pas une analyse hyper minutieuse de mes modalités de traitement de dossier. Je pars du principe que tant que je fais bien les choses, peu importe le temps que j'y passe, en réalité, il faut bien faire les choses. C'est ça le...
Non, mais c'est juste, je pensais plus à l'aspect plus honoraire. Enfin, je veux dire, le fait d'avoir d'être passé à un nouveau mode de facturation et du coup de se former et de s'habituer à une autre tarification de son travail, est-ce que ça a eu aussi un impact dans votre développement, pour vos dossiers personnels, quoi, parce que
ouais,
du coup, ça fait péter des plafonds, en fait, des plafonds mentaux.
Ouais, non, je facture pas autant que ce que facture mon cabinet, parce que j'ai pas la prétention d'avoir autant d'expérience ou de qualification. Mais oui, j'ai peut-être fait évoluer un peu ma facturation et en tout cas mes honoraires, mais aussi parce que bah, j'ai plus 2 ans de barre, j'en ai 8, donc forcément, nécessairement, mon taux horaire, il est en adéquation avec ma pratique, mon expérience et mes qualités. Donc forcément, j'ai fait évoluer ma tarification.
Super. Et donc, j'allais vous demander pour l'UJA, quand est-ce que vous avez commencé à vous engager pour l'UJA?
Dès mes premiers jours de barre, en fait, l'UJA nous a donné une formation avant même qu'on commence à exercer
Oui, une formation à quel sujet?
sur le début d'exercice, les démarches à effectuer, les usages du palais, etc. Et d'une part, j'ai trouvé ça super désintéressé de leur part de venir donner de leur temps pour leurs futurs confrères ou leurs jeunes confrères parce que s'ils sont pas là, bah personne ne vient nous tendre la main pour notre début d'exercice. Donc vraiment, j'ai trouvé ça super. Et à la fin de la formation, ils nous ont dit, bah écoutez, si quelqu'un est intéressé pour nous rejoindre, n'hésitez pas. Et bah, je les ai rejoints immédiatement. Il y avait de la place au bureau. Enfin, ils m'ont fait de la place puisque j'étais délégué adjoint au sport, ce qui, au demeurant, ne me correspond pas du tout, mais peu importe, je voulais juste rentrer au bureau pour voir ce que c'était et voir si ce que je pouvais faire pour les autres comme eux ont fait pour nous.
Ouais. Et donc ça vous a donné envie de vous investir?
Ben complètement, parce que je suis rentré donc en janvier 2013 au bureau et actuellement j'y suis toujours, même si là je suis en préavis, je vais enfin les quitter.
Ah bon, mais pourquoi vous
Ouais, ben,
décidez de les
il est
quitter?
temps, il est temps.
Mais pourquoi?
Bah parce que ça fait du coup bah, 8 ans que je suis au bureau du GIA et que je pense qu'il faut aussi laisser la place à d'autres parce qu'il y a d'autres bonnes volontés qui se présentent et qui doivent s'épanouir et je pense qu'elles doivent s'épanouir s'il y a la place pour et j'ai suffisamment donné aussi pour avoir envie de faire autre chose.
Et qu'est-ce que vous le bilan de ces 8 années d'investissement à l'UJA?
Mais c'est incroyable. En fait, je parlais tout à l'heure d'une pratique dramatiquement banale de mon exercice professionnel, même si j'adore ce que je fais. Mais c'est vraiment avec l'UJA, je pense, que j'ai trouvé un épanouissement dans la profession en rencontrant des personnes formidables, en rencontrant des personnes dans un autre cadre que le cadre strictement professionnel. Et en ayant l'impression de servir à quelque chose lorsque bah, on donne un conseil, lorsque on donne une formation sur des premières démarches, lorsque on aide un confrère qui est en difficulté, avoir le sentiment, même s'il y a malheureusement parfois beaucoup d'ingratitude de la part des confrères, mais avoir le sentiment souvent d'être utile, de servir à quelque chose.
Et du coup, quels ont été vos modes d'intervention auprès de ces confrères? Est-ce que c'est surtout SOS collaborateur? Est-ce que vous avez travaillé sur d'autres sujets?
C'est hyper vaste parce que je trouve que l'UJA, ça mêle à la fois la convivialité et le côté plus sérieux. Et on peut avoir été utile en organisant des apéros, en organisant des activités sportives ou en organisant annuellement notre spectacle, notre gala UJA, la revue de l'UJA, et on peut fédérer. Et sortir parfois certains confrères de l'isolement par la convivialité, mais aussi, et c'est moins rigolo, lorsqu'il y a des difficultés dans le cadre, notamment parce que c'est souvent ça la difficulté, dans le cadre de l'exécution, d'un contrat de collaboration. Et là, comment est-ce qu'on les aide de manière concrète, en les écoutant, en les informant sur leurs droits, leurs devoirs aussi parfois, mais souvent sur leurs droits, parce que souvent ils savent pas que bah oui, ils ont bien droit à 5 semaines, ou non, pendant le confinement, on ne peut pas suspendre leur contrat de collaboration, ou en leur expliquant que oui, ils ont droit à leur congé paternité, etc. Donc en les informant parfois, ça suffit. Sinon, en intervenant auprès du cabinet ou en faisant le relais vis-à-vis du bâtonnier, parce qu'ils osent peut-être pas saisir tout seuls le bâtonnier. Donc, voilà, ça c'est le côté un peu moins rigolo, mais le côté utile de l'UJA qui, par la proximité, je pense, d'âge déjà entre les avocats qui font partie du bureau de l'UJA et les confrères, ça permet tout de suite un accompagnement plus facile.
Et où est-ce que vous allez remettre toute cette énergie maintenant que vous quittez le bureau?
Alors, c'est surtout la fin de mon mandat au Conseil de l'Ordre qui va me donner beaucoup de temps disponible, parce que ces temps-ci, c'était surtout vis-à-vis au Conseil de l'Ordre que je donnais de mon temps. Je sais pas trop, j'espère que je vais pas m'ennuyer. Déjà, je suis candidat sur la liste FNJA au CNB.
OK.
Donc, je suis en 8e position. Si on fait un score incroyable, je serai membre du CNB. Donc ça, je pense que ça reprendra tout le temps disponible que j'ai pu dégager. Et si je suis pas sur, si je suis pas sur un, si je suis pas élu au CNB parce qu'on a envoyé moins de candidats, je sais pas. J'essaierai de trouver d'autres manières d'exprimer d'utiliser cette énergie.
Votre épisode sera diffusé début décembre, donc ce sera a priori après les résultats
Après,
des
ok.
élections. Voilà, exactement. Voilà, on saura. Le suspense est intenable. Mais oui, donc du coup, potentiellement un effet de vase communicant avec le CNB si élection il y a. Et qu'est-ce qui a motivé le fait de vouloir vous investir auprès du CNB, enfin dans la liste pour le CNB?
Je suis pas le très bon élève de la FNUJA, de la Fédération nationale des UJA, parce que au sein du bureau de l'UJA, je suis le délégué auprès de la FNUJA et j'assiste pas à tous les comités, à toutes les commissions de travail. Je trouve qu'ils font un boulot de dingue pour la profession et dans le cadre de l'exercice professionnel, alors que moi j'ai toujours été plus impliqué dans mon investissement local. Mais tout en n'étant pas ultra impliqué au plan national, j'ai fait des super rencontres et je trouve vraiment que j'ai envie de poursuivre mon engagement. Je sais qu'au plan local, j'ai fait le tour au Conseil de l'Ordre, j'ai fait le tour à l'UJA et c'est peut-être au plan national maintenant que je pourrais poursuivre cet engagement. Et vraiment, je suis admiratif du travail qui est fait par la FNUJA. Et si je peux, à mon petit niveau, apporter ma pierre à l'édifice, ben, tant mieux.
Et parlons-en de votre investissement au Conseil de l'Ordre. C'était aussi une envie de. Enfin, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit et si je me présentais comme membre du Conseil de l'Ordre? Alors, sachant que je ne sais pas à Montpellier, mais quand j'ai interviewé Pauline Désert à Caen, elle disait oui, après, à Caen, les élections du Conseil de l'Ordre, ce n'est pas comme les élections du Conseil de l'Ordre à Paris où il y a finalement énormément de candidats et donc c'est des vraies élections dans le sens où il y en a un certain nombre qui sont laissés sans être élus alors que bah, globalement à Caen on est à peu près autant de candidats que de personnes à que d'élus nécessaires voire il n'y a pas assez de candidats donc finalement c'était enfin il n'y avait pas tout ce côté un peu course à l'élection etc. Campagne donc je sais pas quel est le ratio, comment est le paysage politique institutionnel à Montpellier, mais en tout cas qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit tiens et pourquoi pas le membre du Conseil de l'Ordre?
Alors, premièrement, quand on se présente au Conseil de l'Ordre à Montpellier, on ne sait pas si ça va être une année pleine en termes de candidature ou une année morne. Et en l'occurrence, à l'issue de la clôture des scrutins, il s'est avéré qu'on était 8 candidats pour 8 postes. Donc, à titre personnel, mon élection s'est faite sans difficulté parce que il n'y avait pas trop de suspense. Mais ça, on ne le sait pas quand on se présente. Et l'an dernier, par exemple, et là, on a des élections qui approchent, il y a 4 binômes à pourvoir et 8 binômes qui se présentent. Donc, pour le coup, sans atteindre une campagne comme à Paris, il va vraiment y avoir des discussions sur qui, comment, pourquoi et sur quel programme et pourquoi est-ce qu'on va s'investir. Maintenant, moi, l'époque, en 2017, je terminais mon année de présidence à l'UJA, et un peu comme aujourd'hui, je fais la démarche d'aller voir un peu plus haut ce qui se passe au CNB. Et ben là, je voulais voir ce qui se passait un peu plus haut que l'UJA et donc au sein du Conseil de l'Ordre. Par curiosité, je pense déjà, c'est quand même toujours intéressant de savoir ce qui se passe et comment les décisions sont prises. Et puis, je trouvais à l'imparfait et je trouve toujours à l'époque qu'il y a une sous-représentation des jeunes avocats et encore plus des collaborateurs. C'est-à-dire qu'on est quand même un avocat sur deux en France. Et à Montpellier, c'est pareil, qui a moins de 40 ans. À Montpellier, il y a 30% des avocats qui exercent sous forme de collaboration libérale. Et ce n'est pas du tout le reflet de la composition du Conseil de l'Ordre, où cette année, nous étions seulement deux avocats collaborateurs sur 24. Donc, non pas que... les jeunes avocats doivent surreprésenter la profession ou le Conseil de l'Ordre, non pas que l'expérience que nous apportent des confrères qui sont là depuis très longtemps, qui ont fait plusieurs mandats au Conseil de l'Ordre, n'est pas importante, au contraire, mais il faut quand même trouver un équilibre, ou en tout cas s'approcher d'un équilibre entre réalité de l'exercice et représentation au Conseil de l'Ordre. Donc, je voulais aussi apporter un peu insuffler cette envie de représenter les jeunes.
C'est une invitation indirecte à ce que les jeunes s'intéressent à leurs institutions et potentiellement se lancent dans l'ambition de peut-être intégrer le Conseil de l'Ordre pour aussi
Ben
contribuer à une
ouais,
meilleure
bien sûr.
représentation de leur catégorie socio-professionnelle, j'ai envie de dire, au sein de la profession.
Mais au Conseil de l'Ordre, tout le monde a été collaborateur, mais peu s'en souviennent. Et donc c'est quand même bien qu'on vienne leur rappeler de temps en temps ce que c'est que d'être un jeune avocat, ce que c'est que d'être un avocat collaborateur et qu'on ait un mot à dire. Effectivement, mais là cette année, il y a la présidente sortante de l'UJA, Doa Benjaber, qui se présente au Conseil de l'Ordre, donc j'espère qu'elle sera élue pour continuer à venir, si ce n'est porter la voix des jeunes avocats, au moins apporter une voix supplémentaire, une jeune voix supplémentaire. Voilà.
Et alors ce que je comprends quand même de tout ce que vous m'avez raconté, c'est que vous êtes arrivé avocat surtout par dépit, que en fait ça vous plaît et que vous avez trouvé dans l'exercice le plaisir de la pratique du droit et en particulier du droit civil et de la procédure civile. Que ça vous plaît à tel point que vous êtes quand même pas mal investi pour la profession, que ce soit avec l'UJA, ensuite le Conseil de l'Ordre et puis maintenant potentiellement le CNB. Est-ce que donc vous ne restez pas avocat par défi?
Ah non, non, non. Maintenant que je le suis, j'y
Vous ne
reste.
restez pas
Et
avocat parce que vous vous dites
j'y reste
non,
avec
non,
plaisir.
changer, c'est trop compliqué.
Non, non, effectivement, ce que je disais au tout début de l'entretien, c'est que je suis venu là un peu par hasard, mais maintenant je m'y sens complètement à ma place et je n'y reste pas par hasard, au contraire, et j'y suis parfaitement épanoui.
Comment est-ce que vous projetez la suite de votre exercice?
J'ai pas la réponse à cette question parce que je m'y suis pas intéressé encore. Et je sais pas du tout si je veux m'installer, si j'ai des ambitions d'association dans le cabinet dans lequel je suis, ou si je veux rester collaborateur toute ma vie. Je me suis pas encore suffisamment posé sur tout ça. Et j'en ai pas parlé avec les personnes concernées aussi. Donc, accessoirement, ça peut aussi être important de savoir ce que, au sein du cabinet, ils envisagent pour moi. Donc, non, franchement, peut-être que cette question me fait peur aussi.
Ouais, qu'est-ce qui vous fait peur dans cette question?
Je vous disais tout à l'heure que mon petit confort égoïste de collaborateur m'allait bien, et que ce soit en tant que QJA ou en tant que membre du Conseil de l'Ordre, ou même en tant que côtoyant quotidiennement des confrères, je vois et je sais que économiquement, c'est pas toujours facile pour un cabinet qui se prétend, pour un cabinet qui est bien établi depuis plusieurs années, ou pour un jeune avocat qui s'installe. Et voyant que certains ont du mal à boucler les fins de mois ou à trouver le sommeil, eh ben, je me dis que j'ai peut-être pas tout de suite envie de rejoindre ceci. Et c'est un peu anxiogène. Anxiogène, non, j'exagère. Inquiétant.
C'est l'inquiétude liée à l'entrepreneuriat, en fait. Au fait d'être seul à la commande de la facturation qui rentre et de si les clients sont au rendez-vous ou pas.
Entre autres, enfin, j'ai bien conscience que je suis dans un confort que beaucoup aimeraient avoir. Les avocats collaborateurs ne sont pas tous épanouis comme je le suis. Ils n'ont pas tous suffisamment de dossiers personnels plus une rétrocession pour vivre correctement, ce qui est mon cas. Donc j'ai bien conscience d'avoir une position confortable et d'avoir de la chance. Et maintenant, je ne fais pas non plus un rejet total de l'installation ou de l'association. Et c'est pas une phobie ni une peur maladive de l'échec. Je dis simplement que pour l'instant, je ne me suis pas suffisamment posé sur ma réflexion future d'exercice.
Et quelle est votre dernière joie ?
Ma dernière joie, je sais pas. J'ai écouté un morceau de musique super sympa avant-hier et j'étais très joyeux en l'écoutant.
C'était quoi ?
C'était de la surf music.
C'est quoi de la surf music ?
La surf music, c'est du rock and roll souvent instrumental sans parole, qui est un courant des années 60. Et je suis tombé par hasard sur un groupe qui s'appelle les Agamemnons, qui est un groupe français de Rouen. Et j'ai trouvé qu'ils faisaient un truc extraordinaire. Et donc, ça fait 3 semaines que je les écoute en boucle. Et samedi, j'ai réécouté leur morceau à fond sur ma toute nouvelle chaîne Hi-Fi. Et j'ai éprouvé ce sentiment de joie.
Est-ce que vous pourrez m'envoyer ce morceau?
Ouais, bien sûr. En plus, le titre s'appelle Palavas les flots. Donc, vu que c'est juste à côté de Montpellier, voilà, petit clin d'œil.
Ok, très bien. Bah non, mais je mettrai aussi le lien vers ce morceau en note de l'épisode et je serai, à titre très personnel, heureuse de le découvrir. Et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ?
Mon jean et mon t-shirt. Okay. Et mes tatouages.
Ah, qu'est-ce que vous avez comme tatouage ? Est-ce qu'ils sont visibles, en fait ? Plus que qu'est-ce que vous avez comme tatouage, qui est beaucoup trop intime comme question, mais est-ce qu'ils sont visibles ?
Ouais, parce qu'ils sont sur les bras, donc ils sont forcément visibles. Mais non, j'ai eu rien de bien intéressant.
Et ça vous a... C'est l'occasion de poser la question. Est-ce que ça a posé des difficultés dans l'exercice, la visibilité de ces tatouages ?
Non, jamais.
Jamais ?
Jamais, c'est ce que... On m'a souvent demandé, mon père m'a souvent demandé si ça n'avait pas posé problème, et non, jamais. Après, ils sont visibles, j'en ai pas jusque sur les mains et sur les doigts, hein. Mais ils peuvent se voir, mais non, je pense qu'en 2020, ou même depuis 2012, que j'exerce, on est quand même dans une société où les gens sont suffisamment... habitués à ça et c'est fini l'amalgame avec les mauvais garçons et les tatouages. Je pense que la société a un peu dépassé ce cliché.
Ouais, bah je pose la question quand même parce que ça pourrait faire des. Ça aurait pu être un sujet, ne serait-ce qu'au stade du recrutement ou autre, mais je suis ravie.
Je suis arrivé en costume cravate pour mon entretien pas en t-shirt.
Ah, du coup, ils n'ont pas vu, ouais, comme ça descend pas trop bas, ils n'ont pas vu. Ouais. Ok. Très bien. Bah, merci beaucoup, Charles, pour cet entretien. C'était super intéressant. Je suis ravie.
Bah, merci à vous de m'avoir accordé ce moment. C'était super cool.